entre mes mains une bande dessinée Nanobulle, Maxi Dégâts à l'assaut des exosomes pour lutter contre le cancer. Alors, chers auditeurs, si vous avez peine à comprendre de quoi il s'agit pour le moment, pas de panique car j'ai avec moi en studio trois invités qui vont tout vous dire de ce projet de médiation scientifique. Tout d'abord, bonjour Lucie Clarisse.
Bonjour.
Alors Lucie Clarisse, vous êtes la dessinatrice, est-ce qu'on dit comme ça, de cette bande dessinée ?
Oui, on peut dire ça, ouais.
Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer, en fait, comment vous définiriez votre fonction de médiatrice scientifique, de créatrice de bande dessinée ?
Ouais, alors déjà, moi, j'aime bien utiliser le mot facilitatrice. C'est un mot que je préfère à médiatrice, parce que j'essaie de rendre les concepts complexes plus simples. Donc, je facilite la science avec le dessin.
Alors comment on s'y prend pour faciliter la science par le dessin? Est-ce qu'on a une formation en dessin? Est-ce qu'on a une formation scientifique?
Alors moi, à la base, ouais, j'ai un doctorat de biologie, de sciences de la vie et de la santé, que j'ai eu à Tours. Enfin, voilà, j'ai fait mes études à Tours. Et derrière, non, j'ai pas de formation en dessin, je me suis auto-formée. Donc voilà.
Donc en fait, c'est faire de sa passion son
ouais,
métier.
C'est ça, en fait, j'ai essayé de mélanger mes deux passions, dessin et science, pour en faire un nouveau métier. Ouais.
Est-ce que c'est la même chose, alors, être dans une démarche scientifique de recherche et être dans du dessin de facilitation scientifique?
Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même démarche. Justement, ça passe par les mêmes étapes. On se pose une question, on essaie d'y répondre, et en fait, le dessin, c'est un moyen de répondre comme on pourrait répondre en recherche à une question, quoi. Ça aide, en fait, l'art nous permet de répondre à des questions, je trouve.
Donc comment ça se passe alors dans la démarche intellectuelle? Comment une question d'art par exemple, ça ressemble à quoi?
Oula, la colle pour commencer. Une question d'art. Waouh, on vient juste de finir de manger, là, faut réfléchir.
Si on se dit une hypothèse de recherche par
ouais.
exemple, mais une hypothèse de recherche en dessin, à quoi ça ressemblerait?
Là, en tout cas, on avait une problématique, il fallait rendre simple un sujet hyper compliqué, parce que les exosomes dans le cancer, c'est quand même pas le truc dont on parle tous les jours à table avec le cousin, la cousine.
Encore que.
Encore que, on peut, ouais. Si on s'appelle Sébastien Roger, peut-être. Mais ouais, non, du coup, c'était une question un peu compliquée. Donc la première question qu'on se posait, c'était comment je fais pour que ce sujet soit compréhensible et intéressant pour des lycéens. Ouais. C'est ça la première question.
Et alors, c'est sûrement très utile d'avoir un doctorat en sciences pour faire ce travail.
Bah pour le coup, moi, ça m'aide. Après, je ne dis pas que c'est indispensable, mais c'est vrai que c'est un atout parce que du coup, je passe moins de temps à comprendre le sujet. Vu que j'ai déjà des compétences en biologie, ça m'aide. Ça m'aide, ouais.
Et alors, Lucie Clarisse, vous faisiez mention à l'instant de Sébastien Roger, qui est ici, dans ce studio. Bonjour Sébastien Roger.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur de l'unité de recherche T2I. Alors, je vous laisse nous en dire plus.
Oui, alors je suis enseignant-chercheur, en fait, à l'Université de Tours. J'enseigne la physiologie à la Faculté des sciences et techniques. Et pour ma recherche, je travaille dans un laboratoire, effectivement, qui s'appelle T2I, pour transplantation, immunologie et inflammation. Et voilà, et donc avec l'ensemble de collègues de l'équipe, nous développons un projet de recherche qui est ce qu'on dit généralement, c'est que c'est un projet qui est translationnel, puisqu'il va du patient à la recherche fondamentale, avec pour objectif de revenir au patient. Et c'est aussi un projet de recherche qui est transversal, puisqu'il s'intéresse à plusieurs conditions pathologiques et à trouver les liens entre ces différentes pathologies.
Alors, ça va être l'exercice difficile. En quelques mots, comment on pourrait expliquer à nos auditeurs ce que sont les exosomes? C'est quoi? Et quel
alors,
rapport avec le cancer?
Les exosomes alors, sont des toutes petites vésicules qui font entre 30 et 200 nanomètres de diamètre, c'est-à-dire entre 30 et 200 milliardièmes de mètre. Donc c'est vraiment minuscule, hein, c'est la taille d'un virus, hein, pour comparer. Et ce sont des moyens de communication qui ont été développés par les cellules pour communiquer à proximité, mais aussi à distance, d'un organe à un autre, par exemple. Et donc, ces toutes petites vésicules, elles empruntent la circulation sanguine, et elles vont être vecteurs d'informations, et ce qui va permettre de moduler la réponse de cellules ou d'organes qui sont situés à distance. Sachant que c'est un mécanisme de communication qui existe naturellement, physiologiquement, et qui permet à un organisme de pouvoir fonctionner normalement, de pouvoir synchroniser ses actions et d'avoir une action efficace. Alors, les exosomes, ils sont connus déjà depuis quelques années hein, maintenant. Ce qui intéresse beaucoup la communauté scientifique, c'est de savoir comment ces exosomes participent à des conditions pathologiques, dans différentes pathologies, quel est leur rôle, quels sont leurs effets. Donc nous, on s'est intéressé ici à une pathologie qui est la pathologie cancéreuse. Évidemment, c'est une pathologie qui nous touche toutes et tous de près hein, ou d'un peu plus loin. Et donc, on s'est intéressé à savoir comment ces exosomes, que l'on sait être produits en plus grande quantité dans le cancer, peuvent participer à ce qu'on appelle l'agressivité cancéreuse.
Et alors, je me tourne vers notre troisième invitée, Béatrice Saulnier. Vous êtes chargée de médiation scientifique à Centre Sciences. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous voulez nous raconter comment ces deux premiers invités ont été mis en lien pour aboutir à cette bande dessinée?
Alors, c'est vrai que Sébastien et Lucie se connaissaient avant. Et en fait, Centre Sciences, on a pour objectif de promouvoir les sciences et techniques auprès du grand public par différentes actions. Et il y a une des actions, en fait, sur lesquelles je travaille, qui est l'accompagnement des projets de recherche sur des actions de culture scientifique. C'est-à-dire que les porteurs de projets qui reçoivent des financements de la région pour des projets de recherche ont la possibilité de monter des projets de culture scientifique à côté. Et donc, moi, mon rôle, c'est un peu de les accompagner et de faciliter, je dirais, les formes de culture scientifique qui peuvent monter. En l'occurrence, dans ce projet, c'est vrai que Sébastien et Lucie se connaissaient avant, mais au tout début du projet, on n'avait pas forcément, quand on a commencé à travailler avec Sébastien, on n'avait pas pensé tout de suite à Lucie. C'est-à-dire que quand on commence à élaborer, je dirais, un projet de culture scientifique, ça dépend un petit peu du public qu'on veut viser, ça dépend aussi de la forme qu'on veut donner. Et le sujet, je trouvais, était assez compliqué de parler de cancer, de parler de cette spécificité sur laquelle travaille Sébastien. Et je ne sais plus comment c'est venu, mais effectivement, on a pensé au support du dessin. Et Sébastien a proposé Lucie pour monter ce projet. Et puis après, ça a été quand même de nombreux échanges avant qu'on se dise, tiens, on pourrait faire une BD. Ça aurait pu aussi être une exposition uniquement illustrée, ça aurait pu, voilà. Mais on était parti dans l'idée de travailler sur ce support du dessin.
Alors pourquoi le choix s'est arrêté sur ce format bande dessinée, justement?
Parce qu'on avait aussi intégré dès le départ dans le projet des lycéens. Et on a, je dirais, à cœur de pouvoir promouvoir la science et la recherche auprès des lycéens qui sont aussi en quête hein, de recherche, de métier et de savoir ce qu'ils vont devenir et de leur faire connaître aussi les métiers de la recherche médicale. Et donc, on a associé un lycée dès le départ dans ce projet, c'est le lycée Vaucanson avec lequel on travaille. Et on s'était dit que de réaliser cette BD en rapport avec les thématiques de recherche qui sont aussi proposées dans le cadre de leur cursus lycéen pouvait permettre en fait de promouvoir cette discipline à travers la BD.
Alors on peut peut-être la décrire, cette bande dessinée, Lucie Clarisse. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire? À quoi elle ressemble?
Oui, c'est vrai qu'à la radio c'est compliqué, mais en fait on a fait une BD qui est en noir et blanc majoritairement, et il y a des petits éléments qui sont mis en relief avec une couleur, le rouge. Donc parfois on va avoir la chemise de Sébastien qui va être en rouge, on va avoir un exosome qui est en rouge, etc. Ça permet en fait de vraiment faire l'emphase sur des choses qu'on a envie de mettre en relief. Et puis le noir et blanc, ça a un peu la cote en BD chez les jeunes. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Après, donc, c'est un style assez réaliste parce que je me suis beaucoup basée sur des photos que Sébastien et Béatrice m'avaient données. Donc voilà, c'est un style.
Et alors, dans cette bande dessinée, il faut dire qu'il y a des personnages qu'on reconnaît quand même assez aisément. Là où vous avez mis en scène, je ne sais pas si on peut dire ça, Sébastien Roger et vous-même d'ailleurs, Lucie,
oui,
Clarisse.
C'est ça, en fait, il fallait une narration et du coup, je me suis dit, bah, la tête, ce que je connais le mieux, c'est la mienne. Donc, je ne me suis pas compliqué la vie, je me suis dessinée.
Alors, ça raconte quoi, en fait, cette bande dessinée?
Ben ça part vraiment d'un contexte, qu'est-ce que c'est le cancer, et puis ça réexplique aussi ce que c'est une cellule, parce que pour comprendre ce qu'est le cancer, il faut comprendre ce que c'est une cellule. Et puis ça va de quelque chose qu'on connaît à quelque chose qu'on ne connaît pas, donc la cellule, le cancer et puis les exosomes dans le cancer. Et puis ça termine sur la collaboration avec, avec d'autres chercheurs, parce que évidemment, Sébastien, il ne fait pas sa recherche tout seul, même s'il est très fort. Il a besoin de collaborer. Et c'était ça aussi qu'on voulait mettre en évidence. On n'est pas à la recherche, ce n'est pas quelqu'un tout seul dans son labo derrière son microscope.
Alors, est-ce que vous voulez nous raconter, peut-être tous les deux, par quelles étapes vous êtes passés pour aboutir à cette bande dessinée ? On imagine qu'il y a eu quand même beaucoup de travail, d'essais, de réflexions et d'échanges pour arriver à ce support.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu veux...
Ouais, c'était, c'est vrai que c'était beaucoup de discussions, en fait, à trois, avec Béatrice. Hein, l'objectif, c'était de pouvoir communiquer auprès des plus jeunes, des lycéens et puis du grand public. Et puis, sans être alarmiste non plus, parce qu'on parle du cancer et que forcément, ça peut faire peur aux gens. Et donc, il y a des petites touches d'humour hein, dans la bande dessinée. Et donc, voilà, l'idée, c'était de faire passer un message. Et puis, au-delà de l'aspect purement scientifique, qui est quand même un petit peu abordé dans la bande dessinée, c'était aussi de faire comprendre ce que c'est que la recherche et comment la recherche se met en place. Donc, effectivement, comme l'a dit Lucie, la recherche est collaboratrice. Donc, on va chercher des expertises dans différents coins du monde. Et puis, on essaie de monter des projets comme ça, où on va avoir l'appui d'équipes complémentaires. Alors ça peut être d'autres équipes en France, et puis ça peut être des équipes dans le monde. Là, ici, c'est en Chine, par exemple. Et on a le soutien de différentes équipes et aussi, des fois, de collaborateurs privés. Donc on a beaucoup échangé à ces différents, sur ces différents plans, sur le plan scientifique, pour donner quelque chose qui soit, on va dire, vulgarisé, qui soit accessible auprès du grand public sans être faux. Et ça, c'est pas toujours évident, hein, parce que le risque, c'est de prendre des raccourcis et pour faciliter l'explication et puis arriver à dire des bêtises. Donc on voulait pas dire de bêtises, d'une part. Ensuite, on voulait raconter cette petite histoire et puis expliquer ce que sont les exosomes et donc voilà comment on a discuté tous les trois.
Oui, si je peux compléter, c'est vrai que il y avait le travail du scénario. Je pense que l'objectif premier, c'était d'attirer l'attention en fait du lecteur, c'est-à-dire par le dessin ou par l'humour ou par le choix narratif ou les autres exemples. L'idée, c'est effectivement de toucher déjà le grand public pour qu'il s'y intéresse. Après, c'est la narration, le script. Alors, c'est vrai que Sébastien me fait sourire parce que quand il dit, on a toujours peur de... Voilà, il y a ce côté un peu frustration de dire, on ne peut pas tout écrire. Et moi, je les restreins souvent en leur disant, mais l'objectif, ce n'est pas de tout indiquer, en fait, dans la BD, mais c'est déjà de sensibiliser. Et quand on arrive déjà à sensibiliser, la personne qui a envie d'en savoir plus, elle trouvera le moyen d'en savoir plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est souvent des sujets qu'on a avec les scientifiques. C'est comme sur un panneau d'exposition ou sur d'autres supports, je dirais, de médiation. On ne peut pas tout mettre. Voilà. Mais il faut faire des choix, certes, qui ne... ça ne déroge pas, je dirais, au contenu du propos. Mais effectivement, je pense que déjà, quand on est dans la notion de sensibilisation auprès d'un sujet, qui plus est, était le cancer, mais on voulait aussi l'aborder d'une manière un peu humoristique, en expliquant le rôle des cellules et comment ça se passait. Et puis, c'est vrai qu'on voulait aussi dire que la recherche était... c'était un peu pluridisciplinaire, que c'était pas centré dans un labo, mais qu'il y avait plusieurs partenaires, y compris des partenaires à l'international. Voilà.
Alors, cette bande dessinée, comment elle a été distribuée en fait ? Est-ce que vous avez pu voir des lycéens justement se saisir de cet outil-là, en parler ? Quel retour vous avez pu avoir ?
Alors, en fait, c'est un projet sur 3 ans. Donc, la première année était consacrée effectivement à la création de cette BD. Et on a eu alors 2 événements qui ont dû être annulés courant 2020, mais on espère que ça va pouvoir se concrétiser, c'est-à-dire que Sébastien et une dizaine de personnes de son équipe, du projet, ils doivent aller à la rencontre en fait des lycéens sous forme de spin dating. Il y aurait déjà une présentation en fait de la BD, une distribution des BD auprès des lycéens. Et après, le speed dating, c'est l'idée de travailler sur les métiers, en fait, et les différents échanges. Parce qu'au sein du projet de Sébastien, Il y a différentes personnes, enfin, peut-être que Sébastien pourra nous dire les différents métiers qui sont présents dans ce projet. Et ça a été un peu une découverte des métiers. Voilà. Donc ça, c'était un premier temps d'échange. Et Lucie devait être présente, en fait, lors de cette journée de restitution auprès des lycéens pour faire ce qu'on appelle des sketch notes. Voilà, pour justement illustrer ce temps d'échange entre des scientifiques et les lycéens.
Est-ce que vous voulez réagir, Sébastien Rouget ?
Oui. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu déçus parce qu'on a prévu plusieurs fois de se déplacer, de rencontrer les lycéens. Puis bon, on n'a pas pu, on n'a pas encore pu, mais ça ne saurait tarder, enfin, j'espère. Ouais, l'idée c'était d'échanger avec les lycéens, leur montrer ce que c'est qu'un projet de recherche, une structure de recherche, et de leur montrer que bah, dans un laboratoire, il y a plusieurs corps de métier, plusieurs statuts qui participent ensemble à développer un projet de recherche. Alors, on a toujours tendance à penser aux chercheurs dans une équipe de recherche. Alors, c'est vrai, il y a des chercheurs, des chercheuses, des enseignants-chercheurs. On a des collègues cliniciens qui travaillent à l'hôpital. On a des scientifiques, on a des pharmaciens. On a des techniciens, du personnel administratif, des chercheurs postdoctorants, des doctorants. Et on a des plus jeunes, des stagiaires de Master 2, de Master 1. Et donc, c'est toute cette petite communauté qui travaillent ensemble pour pouvoir développer un projet de recherche. Et puis, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que dans un laboratoire, on a aussi des personnes qui viennent de différents pays. On a un postdoc qui est un chercheur postdoctorant qui est mexicain, par exemple. On a reçu des doctorants chinois. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans la vie de laboratoire. C'est d'avoir plusieurs nationalités et plusieurs personnes qui proviennent de différents environnements et qui travaillent ensemble sur un projet. Et enfin, il y avait aussi la volonté de montrer que bah, la recherche sont des hommes et des femmes. Et de montrer que dans un labo de recherche comme le nôtre, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui participent au projet. Et donc, c'était important aussi pour nous de véhiculer cette information auprès des plus jeunes qui voudraient aller vers des carrières de recherche.
Lucie, Clarisse, c'est quoi des sketch notes?
La question. En gros, on utilise des petits pictogrammes et des structures un peu. Comment je vais expliquer ça, moi?
Expliquer un sketch note, peut-être. Les cartes mentales, non, peut-être.
Ouais, c'est vrai que ça vient de là.
Oui.
En gros, c'est utiliser des techniques de synthèse par le dessin. Pour arriver à obtenir des planches. Non, c'est pas du sujet, pas du
si,
tout clair.
Si, si.
C'est pas du tout clair. Il faudrait un tableau pour dessiner. Je suis un peu déroutée par le côté voix, parce que j'ai tellement l'habitude de m'exprimer par le dessin que c'est dur pour moi de...
C'est mettre en image une pensée, alors. C'est illustrer la pensée en train de se faire.
Oui, mais de façon synthétique et de façon à avoir une vision globale du truc, quoi.
D'accord, donc c'est dessiner une pensée.
Oui.
Déjà pour la rendre la matérialiser, disons, pour la rendre concrète.
Ouais.
C'est comme une fiche de notes.
Oui, c'est
de
ça,
cours,
complètement. En fait, c'est une des techniques de la...
mentale, en
c'est
fait.
C'est une des techniques de la facilitation graphique, parce que facilitation graphique, c'est un champ hyper large, en fait. Et il y a une des techniques qui est le sketch note, c'est-à-dire je prends des notes dessinées, en fait, qui vont faire une synthèse et une vision globale d'un sujet. Donc ça peut être pendant une conférence, ça peut être... justement, lors d'échanges, là, quand on a des débats, etc., on va avoir une vision un peu globale, on va faire une fresque qui permet de reprendre de façon graphique, dessinée et résumée, et du coup attractive pour l'œil, parce que les images valent mieux que des mots. Donc on aura très peu de mots, mais plus de dessins, et puis des liens entre les notions. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment une vision globale d'un sujet, quoi. Et ça donne un rendu graphique assez sympa.
Excellent pour les gens qui ont une mémoire visuelle.
C'est ça, tout à fait.
Avis aux étudiants, dessinez vos cours.
Ouais, mais complètement, c'est hyper bon pour mémoriser, ouais, tout à fait. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, qui a été vachement développé au Canada et aux États-Unis. Mmh. Et c'est en train d'avoir un peu la cote en France, là, ça démocratise pas mal, ouais.
Alors, vous évoquez d'autres techniques ?
Dans la facilitation graphique ? Oui. C'est qu'en fait, il y a tout un champ. En fait. Là, les sketch notes, c'est presque que pour soi, mais on peut aussi le faire sur des grandes fresques pour les autres. Donc là, ça s'appelle du scribing. En fait, il y a plein de modalités dans la facilitation graphique. On peut le faire sur une fresque lors d'un événement en direct, mais on peut aussi le faire chez nous. Ça peut être un support de communication pour plus tard. Enfin, en gros, vraiment, la facilitation graphique par le dessin, c'est un champ très très large dans lequel le sketch note rentre.
Comment vous orientez, Béatrice Saulnier, des chercheurs ou une équipe vers tel support plutôt que tel autre? Qu'est-ce qui
Alors ça,
fait?
c'est vraiment, alors c'est ce qui me plaît beaucoup hein, dans mon travail quand on commence les discussions avec les scientifiques. Certains ont l'habitude, je dirais, de monter des projets de culture scientifique, d'autres pas. Mais c'est les amener, je dirais, à. Bon, alors c'est un échange, hein, mais les amener à savoir, quand ils montent un projet, quel public ils veulent cibler et la manière, en fait, quel support est le plus adapté. C'est vrai qu'il y a des thèmes qui se prêtent, je dirais, plus à l'échange et à la discussion, donc des rencontres un peu sciences et citoyens. Il y en a qui ont besoin d'avoir un support, je dirais, un peu d'exposition. Après, il y a des thèmes qui se prêtent plus, je dirais, à des maquettes ou à des expériences. Il y a des sujets plus en termes de des supports de vidéos, des supports justement de dessin. Enfin, voilà, on peut imaginer toutes les formes, et je trouve que c'est bien justement de varier les différents supports. C'est comme dans un peu dans la communication, plus on multiplie les supports et puis les entrées, je trouve que plus c'est intéressant. L'idée étant de toucher un maximum de public ou au moins d'essayer de varier pour voilà, on parle du dessin ou de la mémoire visuelle. Il y a des gens qui sont plus attachés à un support de médiation que d'autres. Mais ça, c'est vraiment un échange qu'on a avec les chercheurs, en fait. Et puis, il faut qu'ils accrochent, eux, au support aussi, pour qu'ils s'investissent, je dirais, dans le projet de médiation.
Bah, qui s'y investissent, peut-être qu'ils puissent l'utiliser après, parce que si c'est quelque chose qui leur parle pas du tout, ou alors qu'ils n'arrivent pas à utiliser.
Oui, parce qu'ils peuvent l'utiliser à différentes occasions. Alors là, on a parlé des lycéens, mais on peut parler du grand public. Notamment à l'occasion d'une manifestation comme la Fête de la Science, où c'est effectivement des événements qui permettent de rencontrer du très grand public, et c'est un peu l'objectif. C'est aussi des interventions qu'ils peuvent avoir auprès de leurs étudiants. Je pense que ça peut aussi servir, je dirais, de point de médiation pour leurs étudiants. C'est aussi un public plus captif de professionnels pour certains thèmes, d'élus aussi. Alors, voilà, donc on est sur des supports variés, mais qui peuvent être réutilisables aussi plus facilement pour eux quand ils doivent parler de leur sujet de recherche.
Est-ce qu'on peut décliner, disons, un support de recherche, par exemple, faire un exemplaire pour des élus, un exemplaire pour des enfants?
Alors, en fait, quand on parle d'enfants, c'est pareil, tout dépend de l'âge. Voilà, effectivement, quand on fait une BD comme on l'a fait là, c'est aussi le vocabulaire. Alors, et toujours s'attacher aux prérequis, en fait. C'est difficile, mais c'est ce que je leur dis. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir quels sont les prérequis, en fait, du public que l'on vise avant. Parce qu'à mon avis, si on ne connaît pas les prérequis, c'est difficile effectivement de capter le public qu'on a en face de soi. Donc voilà, on le voit au moment des événements, j'en reviens à la fête de la science, mais en fonction du vocabulaire qu'on utilise, si le vocabulaire est trop complexe, vous perdez effectivement votre public, que ce soit en conférence ou en animation. Donc il faut savoir avoir cette capacité de s'adapter. Et il y a des chercheurs qui l'ont et d'autres un peu moins parce que ça leur demande plus d'efforts, voilà, réellement.
Et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Si c'est un vocabulaire trop simple, on peut perdre des gens
Oui,
parce
alors
qu'ils ont l'impression
ouais.
qu'on les prend pour
Et c'est vrai que
faire
sur
gaffe
des
aussi,
supports
quoi.
de médiation type exposition, moi je dis toujours, il faut différents niveaux de lecture pour que, en fait, un public qui n'y connaisse rien soit attiré, un public qui s'y connaît un peu, qui est déjà averti, puisse aussi avoir un contenu, je dirais, un peu plus, enfin voilà, un peu plus fourni. Donc c'est tout ce travail-là, en fait, hein, quand voilà, on a un public très large. C'est de savoir comment, en fait, avoir différents ni niveaux de lecture, on le voit des fois dans certaines expositions, pour que ça puisse capter un plus grand nombre. Voilà.
Est-ce que ça arrive des équipes, donc disons qu'on une appétence pour la médiation et d'autres qui vraiment ça ennuie, quoi, qui n'aiment pas ça, qui n'ont pas envie
Alors, je dirais que j'ai la chance quand même de travailler avec des gens qui ont envie. Voilà. De se projeter comme ça dans des projets de médiation. Alors après, avec plus ou moins d'investissement et plus ou moins de pratique, mais tous ceux avec lesquels j'ai travaillé, c'est parce qu'il y avait une envie quand même de leur part. Alors c'est vrai que la région les pousse aussi un petit peu hein, dans le cadre de leur financement de recherche, et ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que oui, vous avez des financements, les chercheurs de recherche, mais c'est bien aussi de communiquer auprès du grand public. Voilà, c'est un peu la contrepartie. Et je pense que ça a quand même beaucoup évolué depuis, depuis 15 ans, enfin 10-15 ans. C'est vrai que je sens quand même une évolution, même en termes de doctorants, où on les incite très tôt à participer à des actions de culture scientifique ou à promouvoir quand même les sciences auprès du grand public. Après, il y a des objectifs qui sont doubles, hein. Je pense qu'il y a un réel intérêt de communiquer avec le citoyen. Enfin, ça, c'est. Voilà, voire de mettre en place de la science participative. Et puis, il y a un intérêt aussi à promouvoir les sciences et techniques auprès des plus jeunes. Voilà. C'est un peu les différents objectifs, je pense, qui sont demandés, voilà, à travers ces différentes actions.
Est-ce que vous voulez réagir, Sébastien Rouget, à cette injonction à la médiation?
Oui, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Béatrice. Je trouve que pour nous, ah, c'est vrai qu'il y a quelques temps, c'était pas forcément bien perçu par les chercheurs ou les enseignants-chercheurs et qui pensaient que c'était une perte de temps, en fait. C'était une perte de temps, que c'était du temps qui était pris sur leur temps de travail. Et donc, c'était pas très bien perçu. Et heureusement, les mentalités ont changé. Il me semble que c'est un peu plus. Enfin, c'est d'une part mieux accepté et mieux compris. De mon côté, je pense que c'est un devoir. De communiquer sur ce qu'on fait. Donc, moi, je suis fonctionnaire, hein, donc je suis payé par l'État, donc payé par le contribuable. L'argent qui sert à faire nos travaux de recherche, là, ce projet est financé par la région Centre-Val de Loire. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent public avec lequel on fait nos travaux de recherche. Et donc, évidemment, ces travaux de recherche débouchent sur l'acquisition d'un certain nombre de connaissances que nous, on va pouvoir apporter auprès de la communauté scientifique en faisant des articles scientifiques. Mais si on fait que ça, il n'y a pas de retour auprès de la population générale. Donc, je pense que ça fait partie de nos devoirs. De dire, ben voilà, vous nous avez fait confiance, vous nous financez, vous nous donnez de l'argent pour qu'on travaille. Regardez, regardez à quoi ça sert. Et donc, au-delà de ça, c'est vraiment un plaisir de pouvoir aller discuter avec les gens, leur expliquer ce qu'on fait. C'est souvent très bien perçu, c'est très. Enfin, on reçoit un avis toujours très favorable. Après, il n'y a pas de prosélytisme. Hein. On ne cherche pas à faire des chercheurs de tous les jeunes qu'on va rencontrer. Hein. Mais c'est pas mal de leur expliquer que ce sont des professions qui existent, que c'est accessible et que s'ils le veulent et s'ils en ont envie, ils peuvent y arriver et que c'est ouvert à toute personne. Et donc. Donc c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est aussi super agréable d'aller discuter avec les jeunes de leur avenir, de ce qui peut leur être offert.
Ça arrive des yeux ronds quand vous dites à des jeunes oui, tout le monde peut être chercheur. Est-ce que ça arrive qu'il y en ait qui vous croient pas ou qui ont l'air un peu sceptiques?
Oui. Alors il y en a qui sont sceptiques. Alors c'est vrai aussi que c'est. Ce que je veux dire, c'est que. Toutes les personnes qui ont envie, qui sont motivées, je pense qu'elles peuvent y arriver. Après, évidemment, c'est complexe parce qu'il faut faire des études qui sont assez longues. Donc, il faut aussi avoir les moyens et l'environnement qui permet de faire, matériellement, en fait, de pouvoir faire ces études. Donc, évidemment, il faut. Il faut aussi leur expliquer que ce sont des études qui sont assez longues, mais que s'ils veulent, ils peuvent y arriver. Sachant que ce sont des études qui coûtent moins cher que d'autres, hein, puisque ce sont des études universitaires, et que les étudiantes et les étudiants qui ont envie de le faire peuvent avoir des soutiens, des bourses pour pouvoir faire leurs études, et ça coûte beaucoup moins cher que des écoles. Donc, pour ceux qui le veulent, qui sont motivés, effectivement, c'est possible. Après, on sait bien qu'il y a un nombre de postes qui est quand même assez limité. Donc, c'est à ce niveau-là que ça va pouvoir être concurrentiel. Donc, on leur explique tout ça, comme ça, ils ont toutes les informations en main et ils peuvent faire un choix un choix éclairé.
Vous voulez réagir, Lucie Clarisse? Je vous vois sourire derrière votre masque.
Non, mais je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'est un super métier qui donne hyper envie. Enfin, moi, je me vois, justement, quand j'étais étudiante de Sébastien, je me vois avec des grands yeux pleins d'étoiles vouloir faire ce métier-là. Et puis, des fois, on déchante un peu vite aussi parce qu'on a beaucoup bossé et qu'au final, le milieu ne nous va pas forcément. Enfin, moi, c'était mon cas, par exemple. Le milieu de la recherche, c'était trop dur pour moi. J'étais trop sensible. Et du coup, je n'étais pas capable d'évoluer dans ce milieu-là, en fait, sans être bien dans ma peau. Et du coup, je n'avais pas forcément de choses à côté, quoi. Je trouve ça bien, en fait, qu'on puisse dire aux gens, c'est possible, mais accrochez-vous et sachez que ce n'est pas non plus c'est super facile, quoi. Enfin, il va falloir, bosser, il va falloir vraiment vous poser des questions sur ce que vous voulez faire, quoi. Je trouve ça bien qu'il y ait la communication là-dessus aussi, quoi. Ce soit pas juste... Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte.
Bah, c'est juste de dire... alors déjà, il va falloir beaucoup travailler. Donc en soi, tout le monde peut prétendre à faire ça. Mais déjà, il va falloir beaucoup travailler. Et vous dites aussi qu'il faut être solide. Mais c'est-à-dire
C'est aussi mon vécu. Moi, je parle de ça, de mon vécu. Après, il y a des gens qui s'en sortent très bien et qui sont faits pour ça. Je pense que voilà, c'est des tempéraments aussi, quoi. Il faut... Je ne sais pas si tu...
Peut-être qu'il y a une certaine pression aussi dans ces métiers.
Ouais, après ça dépend. Enfin, la pression, elle est là aussi où on se la met, quoi. Enfin, je pense qu'on se la met aussi vachement tout seul. Enfin, moi, la pression, je me la suis mise beaucoup toute seule. Il n'y a personne qui m'a dit il faut que tu réussisses, il faut que ce soit super. Voilà, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, donc ça m'a un peu desservi, quoi. C'était un milieu où il y avait déjà un petit peu de pression, mais que je m'en suis rajouté beaucoup, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de place à la fin, quoi. Donc faut l'avoir en conscience quand même. Ouais.
Alors la recherche, c'est aussi plein d'autres métiers fantastiques, oui. Hein, par exemple facilitatrice graphique ou alors chargée de médiation scientifique. Alors qu'est-ce que vous aimeriez dire, par exemple, Béatrice Saulnier, sur ces autres métiers de la recherche ?
D'abord, pour reprendre Sébastien et ce que disaient Sébastien et Lucie, c'est que c'est des gens qui sont passionnés et ça, je pense que c'est quand même essentiel. Dans les temps qui courent, de dire qu'on peut faire quelque chose qui nous passionne. Et voilà, moi, j'ai fait des études scientifiques. Je suis arrivée à la médiation parce que ça m'a attirée aussi, voilà, ce côté médiation, communication, grand public, mise en place d'événements, accompagnement. Mais à la base, on était tous passionnés, je dirais, par les sciences. Et ça, je pense que c'est essentiel de vraiment de le dire et de le redire, effectivement. Mmh. C'est qu'on peut aussi travailler de passion et d'échange avec les chercheurs. Enfin, d'une manière générale, en fait, tous les scientifiques avec qui je travaille, que ce soit en géologie, en médecine, en mathématiques ou autre, c'est que c'est des gens qui sont passionnés. Et ça, c'est très agréable. Voilà.
Alors, peut-être que ça fait un peu platitude, mais de dire que... Comment dire, il y a un rôle social aussi dans la médiation scientifique, en fait, l'envie de donner accès au savoir aux autres. Je pense qu'il y a positionnement politique aussi.
Quand on parle de culture scientifique, on parle de culture cinématographique, littéraire ou autre, mais la culture scientifique doit faire partie prenante et je pense qu'on en parle sans... Voilà, parce que ça fait partie de notre quotidien et moi, je pense qu'il y a une réelle appétence, en fait, de la part du grand public pour les sciences. Mmh. Que ce soit dans les émissions que vous faites, dans les événements qui sont organisés, dans les expositions, les gens sont surpris, mais il y a du monde en fait, et vraiment ça les intéresse. Quand on organise des conférences ou des échanges, que ce soit à Tours ou dans une petite commune, je dirais dans le sud de l'Indre-et-Loire, je m'aperçois qu'il y a vraiment des gens qui sont curieux, quoi. Mmh. Et ça, je pense qu'il faut l'entretenir et augmenter tous ces rendez-vous parce que c'est important. Voilà. Quand on parle de culture scientifique, c'est effectivement ce lien entre science et citoyens. Et on le voit d'autant plus, je pense, en ce moment où on voit parfois des scientifiques en plateau, un scientifique qui vous dit « je ne sais pas » ou « c'est important de le dire parce que la recherche, ça prend du temps ». On ne peut pas donner de réponse et c'est ça aussi qui fait la recherche. Mais par contre, on peut échanger et le questionnement du public, je pense, alimente aussi vos recherches et votre manière d'organiser vos recherches. Je pense avec le public, ça se fait ensemble pour moi.
Ça veut réagir autour des micros.
non, mais c'est tout à fait vrai. Non, mais j'étais en train de réfléchir à ce que disait Béatrice et C'est vrai que nous, finalement, dans un laboratoire, on peut très bien continuer à chercher, chercher et s'enfoncer dans, le... dans les abîmes de la recherche, et chercher des mécanismes au niveau moléculaire, etc. Et à un moment donné, c'est bien aussi de se remettre un peu en perspective et puis de se dire, bah, tiens, à quoi ça sert et donc, c'est vrai que la relation... au grand public, bah, permet aussi de ça, de rediscuter et puis des fois de repositionner le curseur à ce qui est véritablement important.
Ouais, ça donne du sens, moi, je trouve. J'ai l'impression que ça donne du sens.
Alors, est-ce qu'on prend le risque d'avoir un public qui dit oh, ça sert à rien ce que vous faites ou je comprends pas? Est-ce que c'est un risque?
Je crois pas que ce soit un risque, en fait.
C'est partie du truc.
Non, je pense pas, en fait. Quand c'est... correctement expliqué, les gens ils voient toujours l'intérêt de ce qu'on fait. Donc, je pense que ce serait plutôt un défaut dans la présentation ou dans l'explication qui conduirait à ce type de réponse.
Oui, puis c'est ce que vous faites, en fait. Vous posez des questions. Enfin, la démarche scientifique fait que vous devez vous poser des questions et mettre des hypothèses. Donc,
comme bien même sa critique,
ça fait partie de la démarche.
Puis le fait que ce soit pas forcément clair pousse justement à se dire, à se remettre en question, je pense, en tant que scientifique, de se dire, ah mince, pour moi ça a l'air hyper clair et en fait ça ne l'est pas. Donc comment je peux aussi essayer de rendre la chose plus simple, quoi.
Et alors, en fait, tout ce que vous dites, ça fait écho à la préoccupation actuelle autour de l'éducation aux médias. En fait, de dire décrypter une info, aller chercher des infos de sources sûres, se questionner, se demander si c'est vrai ou pas. J'ai l'impression que vous êtes aussi, disons, sur la même longueur d'onde, puisqu'on est à la radio. quand on fait de la médiation ou de la facilitation scientifique, on est dans cette idée aussi d'esprit critique, de se questionner.
Ouais, c'est un des grands rôles, moi, je trouve, et même de responsabilité, presque. Et c'est aussi pour ça, moi, j'interviens pas mal à l'Université d'Orléans aussi sur des UE, des nouvelles unités d'enseignement, je vais y arriver, qui sont dédiées à ça, justement, la médiation et développer sa critique, en fait. Comment est-ce que je fais, parmi toutes les infos que je reçois, pour savoir ce qui est juste ou pas, ce qui est juste à l'heure actuelle et qui peut changer, parce que la science, elle change tous les jours. Mais comment je fais, en tout cas, pour développer mon esprit critique et ne pas juste me fier à ce que j'ai lu quelque part en ne connaissant pas la source, quoi. Ça fait partie de notre responsabilité, je pense, de médiateur et puis de chercheur aussi, je pense.
D'éduquer à l'esprit.
Oui, et des médias aussi.
C'est pas juste on transmet l'info et on la rend simple. On vous amène à... Enfin, c'est un peu une responsabilité, je trouve, d'amener les gens à se dire est-ce que ce qu'ils disent, c'est vrai ou pas.
Je pense que c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire... des parents, d'éduquer leurs enfants aussi ce qu'ils ont entre les mains, entre un téléphone portable et tous les outils de communication. C'est les enseignants qui depuis quand même plusieurs années, s'investissent dans des projets pour sensibiliser les jeunes. Et c'est aussi les médias, c'est tous les acteurs, je dirais, un peu de la culture scientifique qui essayent, en fait, de sensibiliser quand même les plus jeunes, mais je dirais pas que quand même, en fait.
Non, clairement pas.
Loin de là, à l'esprit critique. Voilà. Je pense qu'on parle beaucoup des jeunes, on les stigmatise beaucoup, mais je pense que les adultes aussi ont besoin d'avoir cette culture d'autocritique et de se poser les bonnes questions, en fait, par rapport à l'information qu'ils reçoivent.
Alors voici une transition toute trouvée pour annoncer la pause musicale choisie par Lucie Clarisse. Alors qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter?
En fait, j'ai cherché une chanson qui parle de science et donc c'est Alpha Blondie qui a écrit une chanson qui s'appelle Science sans conscience, et ça tombe bien parce qu'il me semble que c'est Rabelais qui a dit Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, donc comme on est au pays de Rabelais, c'est cool.
Alors on écoute cette chanson dans la Méridienne sur Radio Campus Tour et on se retrouve tout de suite après.
Science je vous dis science, sans conscience. Son impuissance appelle à l'aide le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends. Je vous dis
science, oh yeah. Sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme.
Les océans sont radioactifs avec les missiles qui réfléchissent. La terre entière s'asphyxie, c'est un vrai suicide collectif. Bouillé.
Science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme.
En balistique, et je me méfie de cette politique. Arme chimique ou bactériologique, défie toutes les lois de la logique. Je vous dis science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science, sans conscience, n'est que ruine et larmes.
Alpha Blondie, science sans conscience sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours, et oui, la Méridienne, avec moi en studio, Lucie, Clarisse, Béatrice Saulnier et Sébastien Roger. Alors, je crois que vous vouliez, Béatrice Saulnier, nous parler d'un projet qui a été fait avec deux lycéennes du lycée Vaucanson.
Oui, alors c'est deux lycéennes qui font partie intégrante de ce projet qu'on appelle APR Canalex. Toujours dans la démarche en fait de parler en fait des sciences et des métiers autour des sciences, on voulait avec l'enseignante savoir en fait qu'elle pensait des métiers de la recherche médicale et connaître un petit peu leurs croyances. Enfin, qu'est-ce que pour elle quelle étude il fallait faire pour travailler dans la recherche médicale. Donc là où travaille Sébastien. Et donc, on les a fait travailler sur un peu un questionnaire. Elles devaient interviewer à la fois les autres lycéens, des personnes en extérieur, pour savoir, à votre avis, c'est quoi la recherche médicale. Ensuite, elles sont allées rencontrer Sébastien pour trouver toutes les réponses à leurs questions et pas uniquement à leurs questions. Et elles vont monter une petite vidéo avec le Fac Lab là, de l'Université de Tours. Et ça permettra d'avoir un échange après de connaître un petit peu leurs prérequis et de savoir comment elles vont appréhender. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé avec Sébastien quand elles sont venues.
Ah bah avec moi, très bien. C'était très sympa. Hein.
Et quelles questions elles avaient, quoi.
Ah, ouais, ouais, alors c'était des questions très générales, en fait, au départ, sur comment la recherche faisait, Un petit peu comment c'était financé, et puis que c'était juste que la recherche médicale ou biomédicale. J'ai l'impression que c'était beaucoup d'essais cliniques, alors que nous, on va aussi faire de la recherche fondamentale au laboratoire, à la paillasse, et donc c'est cette vision d'ensemble peut-être qui leur manquait. Mais voilà, ouais, ça s'est très très bien passé. Elles étaient intéressées. On a fait un petit tour de laboratoire, ça leur a plu.
C'est vrai que les classes avec lesquelles on travaille, on doit les faire venir aussi dans différents laboratoires du projet. L'idée, c'est d'avoir ce travail comme ça sur plusieurs années avec les lycéens. C'est-à-dire qu'il y a une première rencontre au lycée, après, elles vont venir au labo. Il y avait la promotion de cette BD. C'est sur 3 ans, en fait, permettre de suivre avec des lycéens un projet de recherche. Pour que les lycéens voilà, s'aperçoivent un petit peu qu'un projet de recherche, c'est long quand même. Et encore là, 3 ans, c'est assez court, hein. Mais et qu'il y ait cette promiscuité, je dirais, entre les différents intervenants du projet de recherche et les lycéens autour de la recherche médicale.
Alors, ça doit être assez agréable et intéressant de voir justement ces lycéens qui évoluent sur 3 ans, où on sent qu'ils se saisissent peut-être du projet, qu'ils comprennent mieux les choses. Ça doit être valorisant même.
Oui, je dirais c'est un peu la force de cet événement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une présentation sur une journée, mais effectivement, il faut laisser le temps, je dirais, à ce public de rentrer un petit peu dans la thématique du sujet, d'être un peu plus en promiscuité, je dirais, avec les enseignants-chercheurs, les techniciens et toutes les personnes ressources du projet. Pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait des questions et voilà, et que ça puisse émerger, voire donner des idées, je dirais, aux lycéens qui étaient présents et puis suivre plus globalement, je dirais, un projet de recherche. Ouais.
Et alors, si jamais, sait-on jamais, un enseignant nous écoute et a très envie que sa classe puisse lire cette bande dessinée ou alors participe à une rencontre avec un chercheur ou une facilitatrice scientifique. Qu'est-ce qu'il faut faire, Béatrice Saulnier?
Alors, il peut aller sur le site web de Centre Sciences où la BD est présentée, est téléchargeable. On a aussi une plateforme, alors j'en profite un peu, hein, je fais de la communication, mais une plateforme qui s'appelle Écosciences Centre Val-de-Loire, hein, où là, c'est en fait l'ensemble des acteurs de la culture scientifique en région centre. Alors, ça peut être un musée, ça peut être un laboratoire de recherche, ça peut être un chercheur, tous ceux qui sont animés, je dirais, par les sciences. C'est une plateforme collaborative dans laquelle on peut trouver à la fois des ressources, des événements. Alors, malheureusement, les musées ne sont pas ouverts en ce moment, mais ça peut être aussi l'opportunité de voir des conférences. Alors, non pas en présentiel, mais en ligne. C'est toutes les ressources autour des sciences, les ressources, je dirais, vulgarisées, qui sont autour des sciences. Donc, on trouve aussi sur cette plateforme Écosciences, on trouve Lucie, elle poste régulièrement des informations. Mélissa aussi, de Radio Campus, qui poste aussi pour partager, je dirais, un peu plus avec le grand public. Voilà. Donc, si les enseignants veulent télécharger, ils peuvent aussi profiter de cette plateforme pour voir toutes les ressources qui existent sur Écosciences.
Ah, Lucie Clarisse, alors vous postez plein de choses sur Écosciences.
Et pas que, ouais, je suis un peu une hyperactive des réseaux sociaux. C'est pas génial, mais voilà, ça fait partie aussi du métier, quoi, d'être visible. Quand on fait un métier visuel, il faut qu'on nous voit. Donc effectivement, ouais, pas mal de posts, ouais.
Mais il n'y a pas que des choses négatives, hein, sur les
Non,
réseaux
non, bien
sociaux.
sûr,
Je
non, non,
pense
mais
que
c'est vrai
c'est
que.
là où émergent aussi des nouveaux projets. Donc, je
Non,
pense
c'est
qu'il
très
faut
chouette, ouais,
tout.
c'est des super médias, oui. Ouais.
Alors justement, où est-ce qu'on peut voir votre travail online?
Déjà, j'ai un site internet, donc moi, mon entreprise, elle s'appelle Comency. Alors, c'est Comandsci.fr, mon site internet. Et voilà, du coup, après, moi, je suis pas mal active sur LinkedIn. On peut me retrouver sur Twitter aussi, donc là, c'est avec mon nom de famille, prénom. Donc Lucie Clarisse, et puis ouais, sur la plateforme EcoScience, j'ai pas mal de petits articles.
Et alors, quel autre géniaux projet vous avez en cours, en stock?
Alors je fais pas que de la BD, c'est vrai que la BD c'est un média que j'aime bien et que je trouve hyper adapté pour communiquer autour de la science. Mais du coup ouais, je fais aussi beaucoup de sketchnotes et de facilitation graphique pour la science. Donc là en ce moment je suis en train de travailler avec l'INSERM de Nantes. pour justement rendre accessibles des contenus de conférences en faisant des sketch notes. Donc ça, ce sera bientôt visible aussi sur ces plateformes-là et sur mon site. Et puis, j'ai un super projet là, avec un collègue de ma coopérative, parce que je fais partie, je ne l'ai pas dit, mais de la coopérative Artefact, qui est donc une coopérative, une CAE, coopérative d'activité d'emploi. C'est elle qui porte mon activité. Et donc, je suis salariée de cette coopérative. Et grâce à ça, je peux faire une BD pour le CHU de Tours. Et donc, c'est une BD autour de la douche préopératoire. Et donc, je vais faire une BD et ce sera mis ensuite en petit dessin animé tutoriel par un de mes collègues Philippe Carré, qui est à Orléans, lui, qui est aussi d'Artefact. Donc voilà, c'est ça les deux gros projets du moment. Mais sinon, je suis disponible pour d'autres choses.
À bons entendeurs.
Avec plaisir, ouais.
Et alors, Sébastien Roger, comment on fait pour faire court par les temps qui courent?
Oh là là, on fait court comme on peut. On fait court beaucoup en distanciel. Alors, on a recours aux outils, à différents outils pour pouvoir faire court de chez nous ou derrière notre ordinateur. Et pour les cours magistraux, ça peut se faire pas trop mal, mais c'est vrai que c'est quand même pas évident. On manque de liens avec les étudiants. On a réussi quand même à faire quelques travaux pratiques en présentiel. Donc selon des conditions spéciales, on va dire d'effectifs et de durée, etc. Mais ça nous a fait du bien quand même de nous voir, même masqués, et de pouvoir échanger un petit peu. Donc ça, on a fait ça récemment et ça faisait du bien de se voir et de pouvoir échanger. Et puis quelques travaux dirigés comme ça. Mais c'est vrai que c'est même très pesant hein, d'avoir à faire cours comme ça en distanciel et de pas savoir comment nos cours sont perçus. Il y a une distance qui se met avec nos étudiants et c'est quand même un peu délicat. Hein. Donc on espère qu'on va pouvoir repasser à un mode d'enseignement plus conventionnel.
Et alors l'espoir, c'est donner une date d'arrivée de ces reprises de cours en présentiel ou
Voilà, c'est très compliqué ça. Ouais. C'est très compliqué parce que on suit les informations, c'est un peu à la semaine, savoir comment on va pouvoir adapter. Là, c'est difficile à dire, mais très certainement, ce sera compliqué de revenir à un enseignement complet comme on l'a connu avant la prochaine rentrée.
Vous pensez que ça va avoir un impact même sur la façon de faire cours de manière générale?
Oui, je pense qu'il y a eu des impacts à plusieurs niveaux sur la façon de faire cours. Donc malgré tout, c'est vrai que ça nous a permis de prendre connaissance et de nous familiariser avec des outils qu'on n'utilisait pas du tout. Hein. Moi je suis pas un fanatique hein, de ces outils. Comme ça, pour donner des cours à distance, mais il peut y avoir du bon, et il y a des questionnaires, il y a des choses comme ça, ça nous a forcé à utiliser des choses pour animer un petit peu plus, et ça peut être utile. Ça permet aussi de se recentrer sur ce qui est vraiment important pour l'enseignement. C'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup de cours magistraux parce qu'on veut donner le plus d'informations théoriques possibles. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Peut-être qu'on reviendra sur un peu plus de pratique et de diriger et aussi pour critique scientifique, enfin, des choses comme ça. Donc oui, effectivement, ça va avoir des conséquences. Puis la plus forte des conséquences, c'est qu'on veut se retrouver très vite, quoi. Donc, dès qu'on va pouvoir, je pense qu'on va essayer de retrouver nos étudiants et puis prendre un peu plus contact avec eux.
Alors, où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur vos travaux de recherche en cours?
Alors, sur les travaux de recherche, on peut aller sur le site du laboratoire, donc le site internet de l'EA4245, donc transplantation, immunologie et inflammation. Donc, sur le site, il y a l'organigramme avec tous les membres de l'équipe, il y a les publications scientifiques, il y a des informations sur les opérations de communication scientifique et de vulgarisation que l'on fait. Donc, il y a aussi la BD qui est téléchargeable du site. Il y a aussi un compte Twitter de notre équipe de recherche. Donc je dirais que c'est là où on va trouver le plus facilement des informations sur tout ce qu'on peut faire, tous nos différents projets de recherche que l'on fait à l'EA. Après, il est toujours possible de me contacter, de contacter mes collègues pour avoir plus d'informations, pour faire des stages, venir faire des stages au laboratoire, faire des visites. Et voilà. Et puis après, c'est via l'université où il y a souvent des opérations, des journées portes ouvertes, des choses comme ça qui permettent de nous rencontrer, discuter à la fois de la pédagogie, de l'enseignement et puis aussi de nos travaux de recherche.
Voilà, eh bien, merci. Et peut-être, sait-on jamais, qu'on trouvera le lien vers le podcast de cette émission qui, en tout cas, sera sur le site de Radio Campus Tours. Alors, grand merci à mes invités d'être venus ici dans la Méridienne, dans notre studio, d'avoir participé à cette émission à bonne distance et masquée. Merci, Lucie, Clarisse.
Merci à vous. Avec plaisir.
Merci, Sébastien Roger. Et merci à vous aussi, Béatrice Saulnier. Donc, on va se quitter en écoutant une musique. Alors, je ne sais pas, je me tourne vers mes invités. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition musicale à faire pour terminer cette émission ?
Don't Stop Me Now.
Et voilà, super.
Excellent.
Alors, on se quitte en écoutant Don't Stop Me Now, que j'essaie de trouver sur les internets en tendant mes bras. Voilà.
Ça donne la pêche.
Chers auditeurs, c'est du direct. Alors voilà, je pense que c'est Queen. Donc nous allons écouter ceci dans la Méridienne sur Radio Campus Tours. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
Good time.